en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Quand on parle de Moyen-Âge et de guerre, on pense tout de suite à la croisade. Je vous dirai d'entrée de jeu que je n'en parlerai pas ou peu, dans la mesure où le sujet va être traité du point de vue musulman par Anne-Marie Aidé tout à l'heure et du point de vue chrétien demain par Philippe Contamine. Donc je n'ai pas jugé utile de m'apesantir là-dessus. Mais disons que la guerre sainte, l'apparition de l'idée de guerre sainte au XIe siècle, est une nouveauté dans l'histoire du christianisme, est le point d'aboutissement d'un processus au terme duquel l'Église s'est substituée ou a essayé de se substituer au pouvoir monarchique, enfin au pouvoir impérial défaillant, et s'était instituée garante et tutrice d'un ordre social nouveau, qu'on appelle la féodalité, géré en commun entre deux ordines dominants, celui des clercs et celui des chevaliers. C'est cette alliance de l'Église et des chevaliers qui est à l'origine de la croisade, mais encore une fois, je ne traiterai pas ce thème spécifiquement. Le décret de Gratien, donc nous sommes vers 1140, première synthèse du droit canonique médiéval, reflète bien cette évolution, dans la mesure où il insiste, contrairement à la tradition chrétienne antérieure, sur la possibilité de se sanctifier, en tout cas de faire son salut, dans la vie militaire. À la question « Est-ce un péché de faire la guerre ?»« Militare » en latin, le moine de Bologne, puisque Gratien était un camaldule, Gratien donc le fondateur du droit canonique, le père du droit canonique, répond par la négative « In bellicis armis milites deo placere possunt. » Dans les armes de la guerre, les soldats peuvent plaire à Dieu. Et il allègue l'exemple de, je cite, Saint David. Il parle de David comme d'un saint. Il parle des saints militaires. Il faut remonter. Les chrétiens remontent jusqu'à l'Ancien Testament. Saint David. Et il précise même, je cite de nouveau Gratien, que le chevalier qui a tué un homme pour obéir à son seigneur n'est pas coupable d'homicide. Donc, vous voyez, une très large ouverture du côté de la chevalerie, de la guerre. Cette réhabilitation de la condition militaire s'inscrit dans une perspective de christianisation de la société chevaleresque, qui est trop connue pour qu'il soit besoin d'insister plus longuement. Elle se situe également dans le cadre du programme théocratique formulé par Grégoire VII, dont nous sommes dans les années 1070, et développé par ses successeurs, certains de ses successeurs, en particulier Innocent III, donc 1198-1216, programme qui vise à faire du pape le suzerain des rois chrétiens et la seule autorité habilitée à décider si une guerre est juste ou non, en fonction des intérêts supérieurs de la chrétienté. Ça, c'est une idée tout à fait nouvelle qui se forge justement au tournant du XIIIe siècle. Ainsi, toute guerre entre souverains d'Occident pouvait-elle être condamnée par l'Église dans la mesure où elle faisait obstacle à la croisade? C'est un thème qu'on va retrouver sans arrêt dans l'action diplomatique de la papauté. Toute guerre entre souverains chrétiens empêche l'organisation de croisades et la libération de la Terre Sainte, ou fait obstacle également à la lutte contre les hérésies, qui est devenue une des préoccupations majeures de l'Église, justement dans les premières décennies du XIIIe siècle. Dans la pratique, cependant, cette plenitudo potestatis, plénitude de puissance, de pouvoir, revendiquée par le pontife romain, s'est heurté, vous le savez, à la renaissance des monarchies nationales, en particulier en France. Innocent III, lui-même, affirma bien dans la Decretal Novit de 1203 son droit à intervenir dans le conflit qui opposait Philippe Auguste au roi d'Angleterre et duc de Normandie, Jean Santerre, et justifia cette intervention « ratione peccati », ce qui permet au pape d'intervenir pour essayer d'empêcher, d'arrêter une guerre entre souverains chrétiens, c'est le péché, c'est-à-dire le pape peut intervenir en vertu de l'office qui lui incombait de prêcher un évangile de paix et, comme je le disais à l'instant, de ne pas diviser, de ne pas laisser les chrétiens se diviser alors qu'ils ont une obligation morale de s'unir pour libérer, délivrer la Terre Sainte. Dans la pratique, cependant, Innocent III ne put imposer son point de vue aux deux belligérants et fut taxé, même par les Français, d'arbitraire, un peu plus tard, pour avoir excommunié le dauphin Louis, fils de Philippe Auguste, qui se préparait à envahir l'Angleterre, qui entre-temps était devenu royaume vassal du Saint-Siège. Donc les Anglais, position de faiblesse, se sont en quelque sorte immunisés, protégés contre une invasion française en se reconnaissant. Le roi d'Angleterre s'est reconnu alors vassal du Saint-Siège, ce qui était tout à fait nouveau. Un siècle plus tard, Philippe le Bel, aux prises avec le roi d'Angleterre Édouard Ier, n'acceptera l'arbitrage du pape Boniface VIII qu'en tant que personne privée. Et il en sera de même pendant la guerre de Cent Ans, où le Saint-Siège interviendra à plusieurs reprises pour favoriser la négociation de trêve, et si possible de paix, entre les parties en conflit. Au pouvoir arbitral du pape, qui à l'occasion du péché « ratione peccati » promulgue des censures, se substitue progressivement, nous le voyons, sa fonction médiatrice de type diplomatique, toujours fondée sur des bases religieuses. Il faut rétablir la paix entre les princes chrétiens pour rendre possible l'organisation de nouvelles croisades contre les infidèles, mais qui s'exerce avec plus de discrétion et, ce qui est un grand changement, à partir du fin 13e, 14e siècle, à la requête des belligérants. Cependant, même s'il ne s'agit plus que d'un rêve, les clercs conservent la nostalgie d'une autorité supranationale ordonnée au maintien de la paix. Comme l'écrivait au XIVe siècle l'abbé Angelbert d'Admont, de par l'ordonnance de la divine providence, il sera de nécessité qu'il y ait dans le monde une puissance et dignité suprême et universelle à laquelle devraient être soumis de droit tous les royaumes et toutes les nations du monde, pour réaliser et conserver la concorde des nations et des royaumes à travers le monde entier. Mais c'est un très beau texte dont on peut y voir une préfiguration de la Société des Nations, de l'Organisation des Nations Unies, mais qui est évidemment pour l'époque totalement déphasée. Soucieuse de maintenir ou de rétablir la paix entre les souverains chrétiens, l'Église l'est aussi de préserver l'entente entre les divers groupes sociaux, les partis et les clans qui sont à la base de la société, et surtout en Italie, où les luttes de factions et de familles sont extrêmement violentes et continues dans les cités italiennes. Dans cette perspective, l'Église a recours à ses auxiliaires précieux et efficaces que constituent à partir du XIIIe siècle les ordres mendiants, franciscains, dominicains surtout, qui organisent partout où cela s'avère nécessaire des campagnes de pacification, particulièrement nombreuses en Italie, où l'action des religieux, bientôt relayée par celle des confréries dévotes et des tiers ordres laïcs, s'efforce d'atténuer les tensions qui déchirent les sociétés urbaines, de mettre fin aux déséquilibres économiques et sociaux qui les ont engendrés, et de faire prendre en compte par les pouvoirs communaux les valeurs morales de l'Église en faisant interdire ce nombre de pratiques ou en tentant d'interdire certaines pratiques comme le pré-intérêt ou la prostitution qui sont mises sur le même plan. Parallèlement, les XIIIe et XIVe siècles voient se développer toute une réflexion théorique sur la guerre dans laquelle les canonistes ont joué dans un premier temps, tout au moins, un rôle plus important que les théologiens. C'est sous leur influence, comme l'a bien montré naguère Philippe Contamine, d'un article important, que l'idée de guerre juste prit sa forme classique dans la chrétienté occidentale. Dès 1210, Laurent l'Espagnol, donc un canoniste, énumère dans son Apparatus les critères qui permettent de la définir, critères qui furent repris vers 1140 par Raymond de Peñafort, un dominicain, très proche du pape, dans sa Summa Decasibus. Voilà ce qu'écrit Raymond de Peñafort. Note que 5 points sont exigés pour que la guerre soit juste, à savoir la personne, l'objet, la cause, l'esprit et l'autorité. Analyse de type tout à fait scolastique. La personne, qu'elle soit une personne du siècle à laquelle il est licite de répandre le sang, et non une personne ecclésiastique à laquelle il est interdit, ou cela est interdit, sauf en cas de nécessité inévitable. L'objet, que ce soit pour recouvrer des biens ou défendre la patrie. La cause, que ce soit par nécessité pour que la paix soit acquise par le combat. L'esprit, que la guerre ne soit faite ni par haine ni par vengeance. L'autorité, qu'elle soit faite par l'autorité de l'Église, principalement lorsqu'on combat pour la foi, ou par l'autorité du prince. Si l'un de ces points manque, que la guerre soit dite injuste. Donc c'est un texte tout à fait fondamental, officiel, qui va marquer ensuite toute l'attitude de l'Église et du clergé pendant les siècles suivants. Quelques années plus tard, le cardinal d'Ostie, celui qu'on appelle Ostiensis, Henri de Suse, des plus grands canonistes du Moyen-Âge, dans sa Summa Aurea de 1253, distingue 6 types de guerres, dont 4 sont à ses yeux justes ou licites, et 3 injustes ou illicites. Parmi les premières, les guerres licites, figure la guerre qu'il appelle romaine. C'est la guerre qui oppose les chrétiens aux infidèles et aux hérétiques à l'initiative de la papauté. Mais on y trouve également la guerre dite, qu'il appelle judiciaire, qui oppose des fidèles combattants par l'autorité d'un juge légitime, ayant la juridiction pleine et entière, nous dirions la souveraineté aujourd'hui, sur des contumaces ou des rebelles. Ainsi que toute guerre menée par une autorité à laquelle ce droit a été concédé juridiquement dans les formes. Enfin, il est toujours licite de repousser un envahisseur par la force, tout État ayant un droit absolu à la légitime défense, comme les particuliers. En revanche, sont déclarées illicites la guerre que Ostiensis appelle volontaire, menée par des seigneurs sans l'autorisation du prince, prince entre guillemets, il s'agit, ça peut être le roi, ça peut être une autorité supérieure, l'empereur. La guerre qu'il désigne sous le nom de présomptueuse et la guerre téméraire, la différence entre les deux n'est pas absolument évidente, qui sont le fait d'hommes qui se soulèvent contre une autorité fondée juridiquement. Donc tout soulèvement, toute révolte de sujets contre leur supérieur légitime. Il s'agit de guerres présomptueuses ou téméraires. Dans l'esprit des canonistes du XIIIe siècle, ce prince qui serait seul habilité à déclencher une guerre juste, dans les cas prévus, ne pouvait être que l'empereur, mais dès le XIVe siècle, la notion sera étendue au roi et à tous les chefs de juridiction temporelle dotés des attributs de la souveraineté, comme les dirigeants, par exemple, des communes italiennes. Je reviendrai sur cette question des communes un peu plus loin. Aussi n'est-on pas surpris de constater que, pendant la guerre de Cent Ans, les papes d'Avignon ou les légats qu'ils envoyaient pour essayer de calmer le jeu n'ont jamais déclaré qu'une des parties menait une guerre injuste et donc commettait un péché, ce qui leur aurait donné un argument pour intervenir dans le conflit. En revanche, les clercs dénient aux barons le droit de faire la guerre entre eux sans la licence de leur seigneur, c'est-à-dire en dernier ressort du monarque. Ce qui confirme bien que, après une tentative avortée pour faire du pape la seule autorité susceptible de déterminer le degré de licéité d'une entreprise belliqueuse, l'Église médiévale a assez vite reconnu dans la guerre une prérogative de l'état de droit et du pouvoir légitime, quel qu'il fût. Le langage des théologiens ne se distingue guère sur ce point de celui des juristes. Thomas d'Aquin a en effet sur la question de la guerre une position moins originale qu'on a voulu parfois le dire. Il en parle dans sa somme pour montrer comment la guerre s'oppose à la paix, qui est un des fruits de la charité. Reprenant textuellement l'argumentation de saint Augustin, l'Aquinate commence par affirmer que faire la guerre n'est pas toujours un péché, ce qui l'amène à définir des critères de guerre juste. Je le cite, « On a coutume de définir guerre juste celle qui punisse des injustices, quand il y a lieu, par exemple, de châtier une nation ou une cité qui a négligé, soit de punir un tort commis par les siens, soit de restituer ce qui a été enlevé injustement. » Saint Thomas n'envisage même pas le problème de la légitime défense, tellement elle lui paraît aller de soi. La seule question qui l'intéresse, c'est celle de la guerre dont on prend l'initiative. Cette dernière est licite à ses yeux si elle est déclarée par une autorité publique, car le prince a le droit et le devoir de défendre ses sujets, à la fois contre les perturbateurs intérieurs et les ennemis du dehors. Mais il faut surtout que ceux contre qui la guerre est dirigée aient mérité d'être attaqués en raison d'une faute, et que celui qui la déclare ait le désir de rétablir bientôt la paix après avoir réprimé les agissements des méchants. Si ces conditions sont remplies, on peut entrer en guerre et accepter sa logique. Ainsi, le docteur Commin, dans un développement consacré aux ruses de guerre, condamne certes la violation des promesses faites à l'adversaire, mais affirme que les ruses qui consistent à ne pas dévoiler à l'ennemi ce qu'on se propose de faire et de garder le secret sur les opérations militaires projetées n'ont rien de déloyal. De même, il admet que l'on puisse guerroyer les jours de fête, s'il y a nécessité, car s'abstenir de faire acte de justice, de faire acte de juste guerre, c'est-à-dire de rétablir la justice lésée, serait en dernière analyse paraître tenter Dieu. Pour l'essentiel, on le voit, l'Église médiévale est restée au niveau théorique, dans le droit fil de la position augustinienne, et s'est efforcée de concilier avec l'esprit de paix et de charité la nécessité où se trouvent les États d'avoir à lutter pour leurs droits, conçus comme une parcelle du droit universel, en vertu de la justice qui, en aucun point du monde, ne peut être violée ou lésée. En fait, il faudra attendre le XVIe siècle pour voir cette doctrine s'affiner et évoluer dans des perspectives quelque peu différentes. Ce tournant est marqué par l'œuvre de François de Vittoria, théologien qui enseigna à l'université de Salamanque de 1526 à sa mort en 1546. De façon significative, Vittoria est le premier à voir dans la guerre un problème de droit naturel et à ne pas partir de la morale chrétienne pour juger de sa licéité. Lui non plus ne se pose pas le problème de la légitime défense de l'État, car l'État a le devoir de protéger ses sujets. Pour ce qui est de la guerre offensive, il ne suffit pas d'avoir le droit pour soi, dit-il. Encore faut-il tenir compte de la nécessité et de la proportionnalité. On ne veut pas faire la guerre pour venger n'importe quelle injustice. Ce qu'il y a de plus original chez Vittoria, c'est sans aucun doute la référence à un ordre universel du monde. Dépassant l'idée de chrétienté, il développe la conception d'une interdépendance des États et d'un bien commun de l'univers qui constitue à ses yeux la norme ultime. Compte tenu des calamités qui en résulteraient, l'État doit parfois renoncer à faire une guerre, même juste. Si une guerre est utile à une seule province ou à un seul État, écrit-il, mais doit entraîner de grands dommages pour le monde entier, j'estime qu'une telle guerre est injuste. Ce faisant, il rompait avec la doctrine scolastique qui, dans une guerre, assimilait l'un des partenaires à un juge et l'autre à un malfaiteur, faisant de l'agression du premier à la fois une réparation et une exécution de justice. Beaucoup plus subtil et nuancé, Vittoria prévoit des cas où la guerre pourrait être juste des deux côtés, par exemple si l'un des deux partenaires en conflit possède un droit réel et qu'il y avait chez l'autre une ignorance très sincère de la culpabilité qu'il avait encourue. en attaquant. En cas d'attaque, le second pourrait se considérer en état de légitime défense et prétendre avoir pour lui le droit de juste guerre tout autant que le premier. De ces prémices, le théologien de Salamanque déduit que la guerre est une chose trop sérieuse pour qu'on y ait recours sans cause grave, plus que sur la considération souvent difficile de sa justice, son caractère juste, il suggère que les efforts devraient porter sur les conditions de son déclenchement. À une époque où la guerre devenait, nous sommes au XVIe siècle, le moyen de régler tous les conflits territoriaux, coloniaux, religieux, sociaux, etc., il recommande que l'on prenne avis, avant de la déclarer, de nombreux hommes sages et n'hésite pas à affirmer que les sujets ont le droit de refuser de participer à des hostilités engagées par l'État s'ils les estiment injustes. Car, dit-il, en général, toute la faute vient des princes. Enfin, il se préoccupe beaucoup de limiter les châtiments infligés pendant la guerre de façon à préserver les populations civiles. Ainsi, il ne veut pas que dans les guerres contre les Turcs, on tue les enfants ni les femmes, même sous le prétexte que ces enfants devenus grands combattront les chrétiens. Et il demande qu'on ne puisse en aucun cas mettre à mort les otages. Et cette prise en considération des données concrètes de la guerre, on la trouvait déjà au XVe siècle, où un certain nombre d'auteurs se sont, ecclésiastiques, se sont efforcés de définir des comportements chrétiens dans la guerre, à l'intérieur même de la guerre. Et un personnage intéressant, sur lequel je reviendrai rapidement, le bénédictin Honoré Bouvet, dans son Arbre des batailles, écrit que si en bataille se font plusieurs mots, ce n'est pas selon la nature de la bataille, mais est faute usage. Et un des mérites qu'on reconnaîtra Jeanne d'Arc au XVe siècle, même ses adversaires, c'est d'avoir mené une guerre aussi morale que possible et en évitant toute cruauté inutile. Donc il y a un effort à partir du XVe siècle et qui se continue au XVIe avec chez Victoria pour humaniser autant que possible les conditions même de la guerre. Les idées de Victoria sont reprises et développées un peu plus tard par le théologien jésuite Suarez, qui, dans ses traités De Caritate et De Legibus, s'efforcera de définir le droit des gens et mettra l'accent sur la nécessité de maintenir l'ordre international. Plus que des guerres justes, il parle des guerres injustes, terme qu'il applique de façon significative aux guerres volontaires, dans lesquelles chaque État tente sa chance pour essayer de s'étendre aux dépens de son voisin. Celui qui gagne, dit-il, n'est pas tenu de restituer à l'autre ce qu'il lui a pris, car il s'agit d'une sorte de jeu auquel on doit appliquer non les règles de la morale, mais celles du jeu. Mais l'enjeu, lui, est tragique, et c'est pourquoi Suarez propose de substituer à la guerre la procédure arbitrale pour régler les conflits, ce qui l'amène, évidemment, bon jésuite, à se tourner vers le Saint-Siège, le pape étant le mieux placé, selon lui, pour apaiser les querelles des princes. À côté de ces considérations, qui sont, je dirais, l'œuvre de juriste et de théologien, et qui concerne surtout les relations entre États, les guerres entre États, je voudrais, pour terminer, ajouter un petit développement sur une notion qui, au Moyen-Âge, est fondamentale, et qui a presque plus d'importance que les guerres entre souverains ou entre États, c'est la guerre privée. La guerre privée enrichit, mais complique beaucoup le problème de la guerre juste, parce que dans une guerre entre États ou entre souverains, encore relativement facile peut-être, de discriminer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ça l'est beaucoup plus dans la guerre privée. Alors qu'est-ce que c'est que cette guerre privée, si importante à l'époque ? Les théoriciens en parlent peu. Bellum privatum, dit Jean de Legnano, grand canoniste, bellum particulare. Par contre, en Allemagne, où la pratique va rester extrêmement importante, plus longtemps qu'ailleurs, le mot Fehde est évidemment très utilisé. Les théoriciens en parlent peu, Bartolo de Sassoferrato en parle une fois, Thomas d'Aquin une fois, et pourtant c'est une notion omniprésente. Alors qu'est-ce que c'est que la guerre privée ? Eh bien, c'est une guerre qui n'implique pas des autorités souveraines, ou plutôt qui n'est ni déclarée ni menée par elles, même si parfois il arrive qu'elles sont à l'arrière-plan et qu'elles tirent les marrons du feu. Ces guerres privées impliquent des forces politiques ou sociales de moindre envergure que les rois ou l'empereur ou le pape, des seigneurs territoriaux, des chevaliers, les Ritter allemands, les cités, les communautés paysannes, même parfois. Et la vraie guerre, je dirais, au Moyen-Âge, c'est fondamentalement celle-là, car il s'agit d'une conflictualité endémique et permanente, sous des noms et des formes diverses. Elle est un type de guerre, en tout cas plus fréquente que la paix, qui, à cette époque, reste relativement exceptionnelle et précaire. Même dans le cas de la fameuse fresque du bon gouvernement du palais communal de Sienne par Lorenzetti, la paix est bien représentée, mais nous sommes toujours étonnés de voir qu'elle a l'air inquiète et défaillante, car précisément pour les contemporains, la paix était une notion un peu évanescente, qui était beaucoup moins réelle et présente que la guerre. Et dans la guerre, il y a donc cette guerre privée qui est une guerre continue dans une société où coexistent de nombreux pouvoirs, plus souvent en conflit qu'en accord, en raison d'une dispersion très poussée de l'autorité légitime et de la souveraineté. C'est seulement à la fin du Moyen-Âge, 15e siècle, et même plutôt au 16e dans le domaine germanique, que les souverains ou d'autres formes de pouvoir parviendront à faire reconnaître leur droit exclusif de faire la guerre. Et c'est seulement à cette époque que les théologiens et les canonistes commenceront à s'intéresser à la guerre privée. Pour faire face à cette réalité, en effet, des clercs commencent à écrire, alors tardivement, des traités, comme Honoré Beauvais ou Bouvet, moine bénédictin et prieur de l'île Sainte-Barbe à Lyon, qui a écrit L'Arbre des batailles, un important traité composé entre 1386 et 1389, où il aborde très concrètement la question du droit des gens dans les batailles et des guerres privées. Il écrit à l'usage des seigneurs et des militaires, des chefs des grandes compagnies, etc. Et significativement, ces traités sont en langue vulgaire et plus en latin, comme ceux que j'ai cités précédemment. L'Église entreprend alors un effort pour diffuser l'idée que les guerres nobiliaires sont illicites, elles viennent avec l'appui des souverains, et en particulier en Allemagne, où la Fehde est depuis longtemps, la guerre privée, depuis longtemps interdite par la législation impériale, mais était revendiquée comme un droit par les seigneurs et même par les simples Ritter. Donc, difficile d'appliquer ces interdictions et difficile d'appliquer la catégorie de guerre juste ou injuste à des situations de conflictualité latente. Thomas d'Aquin, dans le seul passage où il parle de cela, très influencé par Aristote, évidemment, il pose trois conditions pour que la guerre puisse être considérée comme bellum publicum, et juste. La première, c'est que la guerre ait une juste cause, ce qui n'est pas facile à déterminer. D'autre part, qu'il y ait une recta intentio, une intention droite de la part de celui qui la déclare, qui la fait. Et trois, ça c'est plus intéressant, auctoritas principis, cuius mandatis bellum et gerendum. Donc la seule guerre justifiée, c'est celle qui se fait par l'autorité qui est lancée, promue par l'autorité d'un prince dont il fait partie des commandements, par les commandements duquel la guerre doit être menée. Donc à l'exclusif de toute guerre privée qui est mise au banc de la chrétienté. Et Thomas écrit: Non enim pertinet ad personam privatam bellum movere. Il n'est pas dans les compétences d'une personne privée de déclencher une guerre. Et à ce phénomène des guerres privées, l'Église va répondre, mais évidemment c'est beaucoup plus difficile à saisir que ce qu'on trouve dans les traités des canonistes ou des théologiens. L'Église va répliquer en quelque sorte, essayer de remédier par l'action capillaire des prédicateurs itinérants, surtout des prêcheurs et des franciscains de l'observance, qui vont cité par cité, pays par village par village, essayer de faire signer, faire conclure des paix privées. Ça, c'est un domaine qui a encore été assez peu étudié, mais qui est très important en Italie, par exemple, dans les cités, les réconciliations, les campagnes de prédication sont suivies de quantités de signatures de paix privées. On va chez le notaire avec un franciscain et un dominicain, deux familles qui se déchirent depuis des générations, pour faire un accord d'agrément, de pacification. Et voilà, donc l'Église essaie de répondre à son niveau très concret à cette action pour lutter contre la guerre privée, sans jamais... que malgré tout, il y a une régression des guerres privées incontestable, surtout dans les pays de forte tradition monarchique comme la France ou l'Angleterre, et même en Allemagne et en Italie, on progresse dans ce sens au XVe siècle, mais la guerre privée subsistera encore un certain temps dans ces pays-là. Voilà, je conclus. Dresser, comme nous avons tenté de le faire en quelques minutes, un panorama des réactions chrétiennes vis-à-vis de la guerre au long d'une époque qui s'étend sur un demi-millénaire, constitue, nous en sommes bien conscients, une gageure. Il serait plus arbitraire encore de chercher à dégager des caractéristiques communes aux périodes de l'histoire qui se sont succédées depuis l'Empire carolingien jusqu'à celui de Charles Quint et de Philippe II. Mais on ne peut manquer d'être frappé par certains traits spécifiques de l'attitude de l'Église dans ce domaine, à la fin du Moyen-Âge. Celle-ci exclut en effet toute mise hors la loi systématique par principe de la guerre, qui n'est jamais condamnée en tant que telle, pas plus que le métier des armes. Mais ce réalisme s'accompagne d'efforts prolongés, tant au niveau du droit que de la pratique, pour réduire le nombre des belligérants en interdisant les guerres privées, les tournois et autres formes de violence anarchique ou ludique, ainsi que une défense des victimes potentielles, des efforts pour défendre les victimes potentielles des conflits armés. Les bénéficiaires de ces restrictions furent finalement les princes temporels, les rois et les cités-états, dans le cas d'une chrétienté où l'Église romaine revendiquait pour elle le privilège de définir les ennemis de Dieu, dans le cadre de la croisade, et avait essayé donc de s'ériger en juge des litiges opposant les souverains les uns aux autres, mais avait dû y renoncer. Cette action de type politique et diplomatique allait de pair avec une série d'entreprises de pacification menées à la base par les clercs et les religieux, voire même par des laïcs, confréries par exemple, pour apaiser les conflits qui travaillaient le corps social et y affirmaient, même par la force en cas de nécessité, les droits de l'Église et des pauvres. Mais à partir de la fin du Moyen-Âge, ce système qui n'avait qu'imparfaitement fonctionné aux époques antérieures entre en crise. La montée de l'absolutisme monarchique et le triomphe des idées machiavéliennes de l'État amènent les théologiens les plus lucides à prendre conscience qu'il n'était plus possible de laisser aux princes le soin de définir ce qui était juste ou non en matière de guerre. En outre, l'évolution des techniques militaires commence à faire de la guerre un fléau dont les conséquences tragiques dépassent ce qui était supportable pour les populations et les États, même si, au regard de nos capacités actuelles de destruction, les désastres de la guerre du XVIe siècle peuvent paraître bénins. Pour toutes ces raisons, on assiste avec Victoria et Suarez au dépassement de la notion de guerre juste, et on voit s'affirmer dans leurs œuvres la nécessité de prendre en compte avant tout le maintien d'un ordre international fragile, sans cesse menacée par les initiatives belliqueuses des souverains pour lesquels la guerre est devenue un moyen politique tendant à conserver et à développer l'État. Merci de votre attention.